Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis l'annonce par les États-Unis du retrait de l'accord international sur le nucléaire, la situation économique et financière de l'Iran se dégrade. La devise est en chute libre et les investissements au point mort. Les manifestations se multiplient en raison des pénuries et du coût de la vie. Cible principale des contestataires, le pouvoir en place, qu'il soit civil ou religieux, accusé de privilégier sa diplomatie régionale aux dépens des conditions de vie des Iraniens. La situation économique et sociale de l'Iran post-accord sur le nucléaire, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche. Bonjour Marnaz Chirali.
Bonjour Éric Bataillon.
Sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran. Vous êtes également directrice d'études à l'Institut de sciences et de théologie des religions et vous enseignez aussi à Sciences Po Paris. Alors le retour des sanctions américaines après la dénonciation de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien par Washington n'est pas sans conséquences, loin s'en faut, pour l'Iran, à commencer par la situation des couches populaires iraniennes. Marnaz Chirali, l'emploi se ferait plus rare et les grèves et les manifestations se multiplieraient dans le pays. C'est votre analyse ?
Disons que ça fait longtemps que le chômage se propage parmi les jeunes iraniens. Déjà, les chiffres de 2016 montraient que quelque 24% des jeunes entre 25 et 30 ans sont au chômage, tout en sachant que les chiffres officiels sont largement en dessous de la réalité. Et l'année dernière, on avait certains recensements qui disaient dans certaines villes de l'Iran, certaines villes de province, le taux de chômage dépasse les 60%. Donc, vous voyez que déjà avant l'arrivée des sanctions, avant la retombée des nouvelles mesures américaines contre l'économie iranienne, la situation était déjà largement catastrophique. C'est vrai que la retombée des sanctions a aggravé la situation, une situation qui était déjà dans une position extrêmement désavantageuse pour les Iraniens.
Car il faut le rappeler, le pays est sous la menace et la réalité d'un embargo depuis 1980, c'est-à-dire
Absolument.
Au lendemain de la révolution.
Tout à fait.
Sur les marchés financiers, le rial, la devise iranienne, est en chute libre.
Par rapport à l'année dernière, à la même époque, elle a perdu 3 fois sa valeur. Et par rapport au lendemain de la révolution, ça veut dire par rapport à il y a 40 ans, la monnaie iranienne a perdu 90% de sa valeur.
Alors, quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'économie aujourd'hui et sur le travail, par exemple, sur l'emploi ?
Des conséquences désastreuses. Il n'y a pas vraiment les mots qui puissent exprimer, décrire la situation telle qu'elle est. Les Iraniens n'arrivent même pas à manger correctement dans le quotidien, à subvenir à leurs besoins dans le quotidien.
Quels sont les slogans que l'on voit régulièrement dans les manifestations et lors des grèves qui se multiplient aujourd'hui en Iran ? Quels sont les mots d'ordre, en quelque sorte, de ceux qui manifestent ?
Le mot d'ordre, en fait, c'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement depuis le mois de janvier dans les slogans des manifestants en Iran, quelle qu'elle soit la ville, quelle que soit la région ou le niveau social, que ce soit les ouvriers ou les enseignants ou les jeunes étudiants, c'est toujours cette opposition des Iraniens contre la politique étrangère de la République islamique. Systématiquement, ils disent, notre problème n'est pas la Syrie, n'est pas la Palestine, mais notre problème c'est l'Iran, résolvez le problème de l'Iran, occupez-vous des intérêts nationaux de notre peuple, arrêtez de vous mêler dans tous les conflits. C'est ça qui revient très souvent. Il y a un deuxième slogan qui m'a largement étonnée, si vous voulez, je peux le dire, je ne m'y attendais pas, c'est les slogans en faveur de retour de Prince Reza Pahlavi. Systématiquement, on entend qu'on dit de très bonnes choses sur son grand-père, sur Reza Shah, et on demande toujours le retour du petit-fils en disant que tu es l'espoir de ce peuple. J'étais très étonnée, je m'y attendais pas. Moi, j'ai vu la révolution, j'ai l'âge largement pour me souvenir des événements de la révolution. Et d'un coup, j'étais très étonnée quand j'ai vu que les jeunes qui n'ont pas vu l'autre époque, qui n'ont pas vu l'époque de Shah, ils réclament le retour de fils de Shah. Et donc, là, maintenant, c'est la personne qui est en train de se dégager parmi de tous les opposants qui sont à l'étranger. Là, il est réclamé par les opposants iraniens, par les manifestants iraniens, à l'intérieur du pays.
Est-ce justement parce qu'une bonne partie de la population aujourd'hui en Iran est une population qui n'a pas connu avant la révolution et donc qui n'a pas connu le temps du Shah?
80% de la population iranienne aujourd'hui est née après la révolution. Et 40 millions d'Iraniens sont âgés de 15 à 35 ans. Ces gens-là, ils n'ont pas connu l'époque de Shah. Par contre, par rapport à ce que leurs parents leur ont raconté et les comparaisons qu'ils font, ils voient à quel point la situation est dégradée, le pays est au chaos total. Et donc, pour eux, l'époque de Shah était une époque qui était largement supérieure, ce qui est absolument vrai. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. L'Iran était en voie de progrès, l'économie était épanouissante. C'est vrai que les libertés politiques n'existaient pas, mais il y avait tout autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de liberté politique. Mais il n'y a rien d'autre. Évidemment, les gens réclament ce qui était avant. Ils trouvent que l'époque de Shah était nettement supérieure, la situation de vie était bien supérieure par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment un grand étonnement, il n'y a pas de lieu d'être étonné que les gens réclament le retour de Reza Pahlavi.
Est-ce que réclamer le retour d'un membre de la royauté, d'une part, et d'autre part, de demander à ce que l'Iran et les autorités ne s'occupent plus des affaires étrangères, mais plutôt des affaires intérieures, ce n'est pas d'abord et avant tout parce qu'il y a un malaise vis-à-vis du pouvoir actuel et de ce qu'il fait ou surtout de ce qu'il ne fait pas?
En fait, le malaise dont vous parlez me paraît vraiment évident. Le pays ne fonctionne plus. Rien ne marche actuellement en Iran. Rien, sur aucun plan. Aucun plan. Sur le plan universitaire, éducatif, culturel, il n'y a rien. Il n'y a même pas une seule sphère là où on peut dire que les choses sont épargnées, tout va bien. Là, par exemple, ce secteur-là est resté en dehors de chaos. Non, mais tout est en chaos aujourd'hui. La devise qui tombe jour après jour, chaque jour où les Iraniens se réveillent, ils trouvent que leur monnaie a perdu sa valeur. Il y a un chômage, la toxicomanie, la prostitution, la vente des organes du corps, les gens qui vendent leur œil, les gens qui vendent leur rein. On n'a jamais vu ça en Iran. Et quoi de moins étonnant que les gens s'opposent à ce régime, aux dirigeants qui n'arrivent pas à gouverner correctement. Mais aujourd'hui, là, rien ne va plus.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI et nous sommes en compagnie de la sociologue et politologue spécialiste de l'Iran, Marna Shirali. Alors, parallèlement aux nombreuses grèves et mouvements sociaux dont nous avons parlé à l'instant, qui frappent régulièrement des professions aussi bien les instituteurs que les conducteurs, les infirmières, depuis 2011 au moins, il y a une contestation plus sociétale qui s'affirme avec en particulier le mouvement des foulards blancs, ces jeunes femmes qui quittent leur foulard en pleine rue et qui le montrent au bout d'un bâton. Il y a donc bien une revendication politique particulière qui s'affirme dans la population.
C'est vrai que les femmes, depuis le lendemain de la révolution, étaient la cible privilégiée des ayatollahs. C'était le 8 mars 1979 que Khomeini a rendu obligatoire le port de voile. Depuis cette date, les femmes sont devenues la cible privilégiée des agents de l'ordre en Iran qui les insultent, qui les humilient en pleine rue, en plein public, au vu et au su de tous, parce que leur port de voile n'était pas correct, parce que leur mode vestimentaire ne rentre pas dans les codes islamiques définis par la révolution. Donc, on voit une humiliation constante de la population féminine depuis 4 décennies. Après 4 décennies, les jeunes d'aujourd'hui ne supportent pas ce type d'humiliation, d'accepter que n'importe quel homme se permet de les insulter parce que on voit leurs cheveux, parce qu'elles sont un peu plus maquillées. Et donc, elles sont en révolte. Et cette révolte vient du fait que les contraintes qu'on leur a imposées sont devenues complètement insupportables. Jusqu'à certaines mesures, jusqu'à certains niveaux, les gens peuvent accepter les contraintes, mais quand ça dépasse l'entendement, là, c'est la révolte. Donc, ils ont fait exploser les jeunes femmes aujourd'hui, et donc, il ne faut pas s'étonner que les femmes brandissent leur voile sur les bâtons et s'opposent aux politiques répressives du régime islamique.
Parmi ces femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes. Or, elles n'ont plus connu autre chose que le régime islamique depuis 20, 30, 40 ans, ça dépend leur âge. Comment expliquer qu'aujourd'hui, est-ce parce qu'elles ont accès à des informations qui viennent par les réseaux sociaux, par exemple, qu'elles se disent ben, « on peut vivre autrement et sans foulard ».
C'est vrai qu'elles sont nées sous la République islamique, mais la société iranienne n'est pas une société homogène. Et le décalage entre la société et le pouvoir en Iran n'a jamais été aussi grand. Il y a un pouvoir qui veut imposer la religion, ses contraintes, ses règles, ses préceptes, mais il y a de l'autre côté une société qui est complètement sortie de la religion, une société qui s'est largement ouverte vers la culture occidentale, une société qui aspire à vivre autrement que les dirigeants de la République lui imposent. Et ces enfants sont le fruit de ce décalage. Les jeunes iraniens d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de la République islamique tout court. Ce sont les jeunes de décalage entre la République islamique et la société iranienne, une société qui était largement modernisée à l'époque de Shah et qui n'a pas été islamisée sous le régime. Le régime islamique n'a pas réussi à changer, en fait, les fruits des réformes de l'époque Pahlavi. C'est la raison pour laquelle le décalage a existé et aujourd'hui, ce décalage est devenu encore plus grand. Tous les touristes qui sont allés en Iran ont pu remarquer cette immense différence qui existe entre la vie quotidienne dans les villes iraniennes, à Téhéran, à Shiraz et dans les autres villes qu'ils ont visitées, et la réalité de pouvoir. Et ils trouvent que le décalage est immense et ils en parlent toujours. On entend cette impression première que les touristes ont de ce pays.
D'autant que d'autres formes de revendications féminines ou jeunes sont visibles aujourd'hui. Par exemple, ces jeunes femmes qui, depuis cet été, ont décidé de donner de la visibilité à leur sport, que ce soit le football, que ce soit le handball, que ce soit le futsal et d'autres encore. Elles se filment et elles postent sur les réseaux sociaux ces petites images, ces petites vidéos pour que d'autres soient au courant de ce sport. Parce que en matière de sport, les femmes aujourd'hui en Iran n'ont pas accès ni aux images, ni d'ailleurs au stade.
Oui, en fait, c'est un mouvement qui a été sous-estimé aussi bien par les médias iraniens que par les médias occidentaux. Dans le sens où on dit c'est un pays qui est en train de vivre des catastrophes immenses, il manque des médicaments, les soins médicaux se font rares, et comment ça se fait que les femmes iraniennes se soucient pour aller participer dans les salles de sport, et ça doit être leur dernier de soucis. On ne voit pas ce qui se passe derrière. C'est une analyse très superficielle de dire que c'est un pays où on n'a pas de quoi manger, et les femmes veulent entrer dans les salles de sport. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas très bien. Mais les choses sont beaucoup plus profondes que ça. Au fond, la femme ne demande pas tout simplement aller dans les salles de sport ou dans les stades ou regarder les footballeurs. Ce n'est pas ça leur problème. Elles défendent leurs droits. Leurs droits. En fait, c'est un mouvement féminin qui passe par la défense des droits fondamentaux des individus. Alors, les femmes réclament leurs droits fondamentaux. Et ça, quitte au fait que ce soit un sport, le port du voile, se maquiller ou quoi que ce soit. Mais ce sont les droits fondamentaux qui sont visés. Elles sont en train de défendre leur liberté individuelle et leurs droits humains. Et c'est ça qu'il faut voir dans leur mouvement et ne pas minimiser les causes. C'est en cela que le mouvement des femmes rejoint la grève des ouvriers qui n'ont pas été payés depuis 6 mois. Vous savez, on est dans un pays où les ouvriers ne font pas grève pour réclamer des meilleures conditions de vie et de travail. Les ouvriers iraniens font la grève parce qu'ils réclament tout simplement leur salaire, le salaire qui leur est dû, parce que les ouvriers n'ont pas été payés dans ce pays depuis 6 mois. Imaginez que on vous paye pas pendant 6 mois. Les ouvriers iraniens, qui ne sont pas des gens riches, qui n'ont pas des épargnes très importantes, alors eux, ça fait 6 mois qu'ils sont pas payés. Et quand ils demandent leur paye, leur salaire mensuel, on les met en prison. Et il y a plusieurs d'entre eux qui attendent arriver leur tour dans les couloirs de la mort dans les prisons iraniennes, tout simplement parce qu'ils ont demandé leur salaire.
Si ces deux mouvements plutôt populaires, grève, etc., et ce mouvement que l'on voit peut-être un peu plus dans les villes, de ce mouvement notamment féminin de révolte et de demande de plus de droits, si ces deux mouvements convergent finalement, contre qui vont-ils converger? Est-ce que c'est contre le régime des ayatollahs ou le régime du président Rouhani?
Moi, je ne fais pas la différence entre les deux. N'oublions pas que Hassan Rouhani est un ayatollah. Le président iranien est un ayatollah. Et n'oublions pas qu'ils ne sont pas aussi différents les uns des autres. C'est vrai que sur leurs intérêts personnels, en ce qui concerne leur enrichissement individuel, évidemment, il y a des petits conflits. Enfin, ce sont les petits conflits entre les amis. Mais en ce qui concerne leur politique étrangère, ils sont solitaires. En ce qui concerne leur politique sociale envers les Iraniens, ils sont solitaires et très répressifs. C'est-à-dire que aucun membre de gouvernement ne s'est opposé à la répression massive que les forces de l'ordre ont imposée aux contestataires iraniens depuis début de l'année. Où jamais on a entendu le président Rouhani défendre les intérêts des ouvriers qui n'ont pas été payés, les intérêts des femmes. Plutôt, il a tenu exactement le même discours que le guide de la révolution, qui est tenu par les médias occidentaux pour quelqu'un de pur et dur, mais on ne voit pas que le président soi-disant modéré est en train de dire exactement la même chose. Il ne faut pas vraiment séparer. Je pense que cette séparation, cette dualité entre les modérés et les réformateurs n'est plus de mise. En tout cas, face aux sanctions américaines, ils se sont solidarisés et leurs différences se sont évaporées. Et là, maintenant, c'est plutôt un régime qui est assez uni face aux menaces extérieures et aux contestations intérieures.
Des sanctions américaines dont vous parlez à l'instant et qui sont plutôt bien accueilli par la population iranienne elle-même, à contrario du gouvernement et des ayatollahs.
Je ne peux pas dire que les Iraniens ont bien accueilli les sanctions. Je ne peux pas dire ça. J'ai publié un article dans Middle East Eye la semaine dernière. J'ai dit que la société iranienne est plutôt divisée en deux groupes. Il y a les uns qui disent que ces sanctions sont vraiment inhumaines, parce que ça nous pourrit la vie, parce que ça nous rend la vie extrêmement, extrêmement invivable, alors que le régime ne sera pas touché, les dirigeants iraniens ne sont pas touchés. Donc, ces sanctions tombent uniquement contre le peuple iranien. Et deuxième groupe des Iraniens, vraiment, la division est très nette. C'est une dichotomie en ce moment dans la population iranienne. Deuxième groupe qui disent que non, ces sanctions sont nécessaires, bien qu'elles nous rendent la vie très, très difficile, mais elles sont nécessaires dans le sens où ça affaiblit le régime et que ça empêche le régime de payer les groupes terroristes extrémistes dans la région. Donc, il y a deux types. Et ce qui est commun entre les deux réactions diamétralement opposées, c'est plutôt la critique des Iraniens envers leur gouvernement, en disant que c'est la provocation de nos dirigeants politiques qui a donné naissance à ces sanctions. Alors qu'ici, en Occident, on entend qu'on critique le gouvernement de Donald Trump. Les Iraniens ne sont pas critiques envers Trump parce que Trump, pour eux, n'est pas en fait leur affaire. Leur affaire, c'est la République islamique qui, avec ses mauvaises politiques, avec ses mauvaises gestions, a poussé le pays dans un chaos total.
Merci Marna Shirali, sociologue et politologue spécialiste de l'Iran.
Merci à vous Eric Bataillon.
Et je renvoie à deux ouvrages, « La malédiction du religieux » publié chez François Bourin en 2012 et « The Mystery of Contemporary Iran » édité en anglais, seulement en anglais, chez Transaction Publishers, New Jersey. C'était en 2014. Orient Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon. Retrouvez-nous sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, en podcast également sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, le journal.